Marcof le Malouin, deuxième partie, chapitre 19. La forêt de Plogastel. Raphaël sembla reprendre un peu de force. Il entendait déjà, mais il ne voyait pas encore. Il éprouvait cette courte absence de douleur qui précède le dernier moment. « Vous êtes le chevalier de Tessy, n'est-ce pas ?» demanda Marcof. Raphaël fit un effort. Un « oui » bien faible vint expirer sur ses lèvres.
« Qu'as-tu fait d'Yvonne ? » s'écria Keinec.
« Yvonne ? »
balbutia le mourant.
« Oui, Yvonne que tu as enlevée, misérable !» dit Jahoua. « Réponds vite, qu'en as-tu fait ?»«
Il m'a empoisonné !» fit Raphaël en suivant le cours de ses pensées sans paraître avoir compris ce que lui demandait le fermier.
« Empoisonné ?» s'écria Marcof.
« Oui, empoisonné, l'aqua tofana, la fiole que lui avait donnée... »
Raphaël ne put achever. De nouvelles douleurs crispaient ses traits bouleversés. Marcof lui secoua le bras.
« Qui t'a empoisonné ? » dit-il à voix basse.
« Lui ? Qui, lui ? Oh, j'étouffe, je brûle, à moi !»
balbutia le malheureux en se tordant.
« Mon Dieu, nous ne saurons rien !»
s'écria Jahoua avec désespoir.
« Que faire ? Il va mourir !» dit Keinec. « Marcof, viens à notre aide !»«
Marcof ?»
répéta Raphaël, que ce nom prononcé parut faire revenir à lui.
« Marcof ? Me connais-tu donc ?
Oui.
Alors réponds-moi, où est Yvonne ?»
« Oh, tu me vengeras !»
fit Raphaël en se cramponnant au bras du marin.
« Tu me vengeras !»«
Mais de qui ?»«
De lui, de celui qui m'a assassiné. »«
Son nom ?»«
Oh, je ne puis, j'étouffe trop, je... »
Et Raphaël, portant les mains à sa poitrine, arracha ses vêtements et s'enfonça les ongles dans les chairs.
« Yvonne !» « Yvonne !»
s'écria Keinec.
« Je ne sais pas, »
répondit le mourant.
« Que s'est-il donc passé ici ? »
fit Marcof en regardant autour de lui. Puis, revenant à Raphaël,
« Qui était avec toi ici ?»«
Lui.
Mais qui donc ?
Le comte de Fougueray, peut-être ?
Oui.
C'est lui qui t'a empoisonné ?
Oui.
Ton frère ? S'écria le marin en reculant d'épouvante. Raphaël se dressa sur son séant.
« Ce n'est pas mon frère, » dit-il d'une voix nette.
« Que dis-tu ? »
fit Marcof en s'élançant près de lui.
« La vérité. »
« Oh, je te reconnais, je te reconnais, je t'ai vu dans les Abruzes. »
Raphaël regarda Marcof avec des yeux hagards.
« Ton nom ? »
s'écria le marin.
« Raphaël, venge-moi, venge-moi, je vais tout te dire. Tu sauras la vérité, tu les livreras à la justice. Elle n'est pas notre sœur, c'est sa maîtresse à lui, à... »
Raphaël s'arrêta. Il demeura quelques secondes la bouche entrouverte, comme s'il allait prononcer un mot, puis il retomba sur le divan et se roidit dans une convulsion suprême.
« Il est mort !»
s'écria Keinec.
« Mort ? »
répéta Marcof avec stupeur.
« Mort, et nous ne savons rien !»
fit Jahoua en se tordant les mains. Les trois hommes se regardèrent. En ce moment, le bruit d'une détonation lointaine arriva jusqu'à eux par la fenêtre ouverte. Cette détonation fut suivie de plusieurs autres, puis tout rentra dans le silence.
« Qu'est-ce cela ? »
fit Keinec. Marcof, sans répondre, s'élança vers la fenêtre. Il écouta attentivement. De nouveaux coups de feu firent encore résonner les échos, et ces coups de feu furent suivis rapidement d'un sifflement aigu et du son d'une corne.
« Partons, » dit-il brusquement. « Partons, nos amis viennent d'arrêter quelqu'un. Peut-être est-ce l'autre, son complice, son meurtrier qu'ils ont pris. Hâtons-nous. Cet homme est bien mort. »
continua-t-il en s'approchant de Raphaël. « Le couvent est désert, allons à la forêt. » tous trois quittèrent vivement l'abbaye. La forêt de Plogastel était proche. Ils y arrivèrent rapidement, en passant au milieu des embuscades royalistes. Marcof se fit reconnaître des paysans et demanda un guide pour le conduire vers le comte de la Bourdonnais. Le chef des royalistes était assis au pied d'un chêne gigantesque, situé au centre d'un vaste carrefour vers lequel rayonnaient quatre routes différentes. Debout, près de lui, appuyé sur son fusil, se tenait un homme de taille moyenne, mais dont l'extérieur décelait une force musculaire peu commune. Cet homme était Monsieur de Boishardy. Marcof laissa Keinec et Jahoua à quelque distance et s'avança seul vers les deux chefs, qui paraissaient plongés dans une conversation des plus attachantes et des plus sérieuses. Monsieur de Boishardy parlait. Monsieur de la Bourdonnais écoutait. À la vue de Marcof, le narrateur s'interrompit pour lui tendre familièrement la main. « Vos hommes viennent de faire des prisonniers ?» demanda le marin en se tournant vers le comte de la Bourdonnais, après avoir répondu au salut amical qui lui était adressé. « Oui, » répondit le royaliste, « j'ai entendu les coups de feu et le signal. Où sont-ils ? On va les amener ici. Bien, je les attendrai près de vous, si toutefois je ne suis pas un tiers important. Nullement, mon cher Marcof, vous arrivez au contraire dans un moment favorable. Il n'y a pas de secret entre nous, et Monsieur de Boishardy me rapportait des nouvelles des plus graves. « Des nouvelles de Paris ? » demanda Marcof. « Oui, » répondit de Boishardy, « je les ai reçues il y a 4 heures à peine, et j'ai fait 15 lieues pour venir vous les communiquer. « Sont-elles donc si importantes ? Vous allez en juger, mon cher. Depuis votre départ de la capitale, il s'y est passé d'étranges choses. Écoutez. » Et Boishardy, prenant une liasse de lettres et de papiers qu'il avait posée sur un tronc d'arbre renversé, placé à côté de lui, se mit à les parcourir rapidement, tout en s'adressant à ses deux auditeurs. « Nos dernières nouvelles, vous le savez, étaient à la date du 26 mai dernier. Voici celles qui leur font suite. Le 5 juin, l'Assemblée nationale a ôté au roi le plus beau de ses droits, celui de faire grâce. Le 6, le roi et la famille royale, qui allaient monter en voiture pour accomplir une promenade, se sont vus contraints à rentrer aux Tuileries sous les menaces du peuple ameuté. Le 10, une nouvelle publication du « Credo d'un bon français » a eu lieu dans plusieurs journaux et a excité encore la fureur populaire. Vous vous rappelez cette pièce ridiculement fatale qui, en février dernier, a accompagné et peut-être causé la tentative de ces braves cœurs que les révolutionnaires ont cru flétrir en leur donnant le nom de « Chevalier du poignard ».«
Parbleu !» dit Marcof. « Je sais encore par cœur ce credo dont vous parlez. Le voici tel que je l'ai appris. Je crois en un roi, descendu de son trône pour nous, qui, étant venu au sein de la capitale par l'opération d'un général, s'est fait homme, qui a permis que son pouvoir royal fût mis dans le tombeau, mais qui ressuscitera bientôt. »«
Précisément, » interrompit Boishardy. « Eh bien, cette seconde publication a fait plus de mal encore peut-être que la première. Pour se venger du dévouement dont faisait preuve un grand nombre de sujets fidèles, le peuple, perfidement conseillé, a abreuvé d'outrage notre malheureux prince, sous les fenêtres duquel les chansons insultantes retentissaient à toute heure. Enfin, le 20 juin, le roi prit un parti énergique que lui conseillaient depuis longtemps ses frères et les émigrés. À la nuit fermée, il a quitté secrètement les Tuileries et, accompagné de la reine, du dauphin, de Madame Royale, de Madame Élisabeth et de Madame de Tourzel, gouvernante des enfants de France, il s'est élancé sur la route de Montmédy. Une heure plus tard, Monsieur et Madame partaient du Luxembourg pour gagner la frontière des Pays-Bas.
« Quoi ? » s'écria Marcof stupéfait. « Le roi abandonne sa propre cause ? Il quitte Paris ? Il quitte la France peut-être ? Telle était son intention, effectivement, dit le comte de la Bourdonnais, car M. de Bouillet, à la tête du régiment de Royal Allemand, était parti de Metz pour aller au-devant du roi et protéger sa fuite.
Eh bien, ne l'a-t-il donc pas fait ?
Il n'a pu le faire.
Quoi ? Le roi est revenu ?
Oui, dit Boishardy, mais revenu par force. Reconnu à Sainte-Ménéhoulde par le maître de poste Drouet, il a été arrêté à Varennes par les soins de Sauze, procureur de la commune, et par Rouneuf, l'aide de camp de Lafayette, envoyé de Paris en toute diligence.
« Le roi arrêté ?» dit Marcof avec une stupeur profonde.
« Oui, arrêté, et écroué le 25 dans son propre palais, interrogé comme un criminel par les commissaires de l'Assemblée, et gardé à vue, ainsi que sa famille, par des soldats révolutionnaires. »
Marcof laissa échapper un énergique juron et fit craquer, par un mouvement involontaire, la batterie de sa carabine.
Le roi, continua Boishardy, avait été ramené de Varennes par trois envoyés de l'Assemblée, Latour Maubourg, Pétion et Barnave, qui ont voyagé dans la même voiture que la famille royale, tandis que Maldan, Valory et Dumoutier, les trois gardes du corps qui s'étaient dévoués pour accompagner leur prince, étaient liés et garrottés sur le siège, exposés aux injures de la populace, qui riait autour du cortège de la royale victime. Pendant ce temps, savez-vous ce que faisait le bon peuple parisien ? Il arrachait les enseignes où se trouvaient l'effigie, les armoiries ou seulement le nom du roi. Il brisait dans tous les lieux publics le buste de Louis XVI et un piquet de 50 lances faisait des patrouilles jusque dans le jardin des Tuileries en portant sur une bannière « Vivre libre ou mourir, Louis XVI s'expatriant n'existe plus pour nous. »
« Mais, dit la Bourdonnais, que fait la classe riche, la classe aisée ?»«
La bourgeoisie, répondit Boishardy, elle fait chauffer le four pour manger les gâteaux, elle rit, elle plaisante, elle a adopté un nouveau jeu, celui de l'émigrette ou de l'émigrant ou de Koblenz. » C'est une espèce de roulette suspendue à un cordon qui lui donne un mouvement de va-et-vient perpétuel.
C'est une rage. Aux portes des boutiques, m'écrit-on, aux fenêtres, dans les promenades, dans les salons, à toute heure et partout, les hommes, les femmes et les enfants s'en amusent.
« Mais le roi !» dit encore Marcof.
« Je vous répète qu'il est prisonnier. Tenez, voici le journal « L'ami du roi ». Lisez, et vous verrez qu'il ne peut tenter une nouvelle évasion. Un commandant de bataillon passe la nuit dans le vestibule, séparant le salon de la chambre à coucher de Marie-Antoinette. 36 hommes de la milice citoyenne vont monter la garde dans l'intérieur des appartements. Un égout conduisant les eaux du château des Tuileries à la rivière doit être bouché, et on doit même murer les cheminées. Lafayette donnera dorénavant le mot d'ordre sans le recevoir du roi, et les grilles des cours et des jardins seront tenues fermées. Quant à l'Assemblée nationale, elle cumule maintenant les deux pouvoirs, exécutif et délibérant.
« Ensuite ?» demanda la Bourdonnais en voyant Boishardy s'arrêter et remettre ses papiers, ses lettres et ses journaux dans sa poche.
« C'est ici où s'arrêtent mes nouvelles, à la date du 26 juin. Le dernier acte de l'Assemblée nationale a été de faire apporter le sceau de l'État sur son bureau et de déclarer pour l'avenir ses décrets exécutoires, quoique privés de la sanction royale.
« Ainsi, dit Marcof, le roi n'est plus rien ?
À peine existe-t-il même de nom ?
Ils ont osé cela ?
« Oh, ils oseront bien autre chose encore si on les laisse faire. »«
Mais on ne les laissera pas faire !»
s'écria le comte de la Bourdonnais en se levant.
« C'est ce qu'il faut espérer, » répondit Boishardy. « Cependant, l'insurrection a bien de la peine à lever hautement la tête. »
Marcof réfléchissait profondément.
« La rouerie commence à agir, » dit le comte.
Mais nous n'avons encore que quelques hommes autour de nous. Les autres viendront.
Quand cela ?
Bientôt, mon cher. Mes renseignements sont certains et précis. Avant un an, la Bretagne et la Vendée seront en armes. Avant un an, la contre-révolution aura sur pied une armée formidable. Avant un an, nous serons les maîtres de l'ouest de la France.
Un an, c'est trop long. Qui sait d'ici là ce que deviendra le roi ?
Nos paysans se décident lentement, vous le savez.
Activons-les, poussons-les, entraînons-les.
Comment ?
Tuez les bœufs des retardataires et allumez une botte de foin sous leur toit. Tous marcheront.
S'ils viennent à nous par force, ils nous abandonneront vite.
Peut-être, mais le point essentiel est d'agir vite.
Que font les émigrés ?
Ils dansent de l'autre côté du Rhin et se moquent de nous.
Le comte de la Bourdonnais haussa les épaules. Ils nous enverront bientôt des quenouilles, comme à ceux de la noblesse qui n'ont pas encore quitté la France.
C'est à quoi ils songent, soyez-en certains.
Corbleu ! Que le roi ne s'appuie donc que sur sa noblesse de province, elle ne l'abandonnera pas, celle-là.
Nous le prouverons, Boishardy.
Marcof, on le voit, ne prenait plus qu'une part silencieuse à la conversation. Toujours absorbé par ses pensées intimes, il était trop préoccupé pour pouvoir s'y mêler activement. Son esprit, un moment distrait par les récits de Boishardy, s'était promptement reporté sur la situation présente. Aussi, frappant le sol de la crosse de sa carabine, « Ces prisonniers ne viennent pas !» dit-il avec impatience.
Chapitre 20. L'interrogatoire. Un cri d'appel retentit au loin. Un second plus rapproché lui succéda. « Voici nos hommes !» fit le comte. Keinec et Jahoua s'étaient rapprochés. Une douzaine de chouans, conduisant au milieu d'eux une femme, un homme et un enfant, sortirent d'une allée voisine et s'avancèrent. « Où les avez-vous pris, mon gars ?» demanda M. de la Bourdonnais.
« Près d'Audierne, » répondit un paysan.
« Ils n'étaient que trois ?»«
Pardon, monsieur le comte, il y avait avec eux un autre homme. »«
Où est-il ? » ?»«
Il a pris la fuite et nos balles n'ont pu l'atteindre. »
« Maladroit !
Nous avons fait pour le mieux. »
« Les prisonniers sont attachés ?»«
Oui, monsieur le comte. » »«
C'est bien, je vais les interroger. »
Les paysans se retirèrent et les prisonniers demeurèrent en face du comte. Ces prisonniers, nos lecteurs l'ont deviné sans doute, n'étaient autres que Jasmin, Hermosa et Henrique. L'enfant, nous pensons l'avoir dit, n'avait pas 11 ans encore. Effrayé de ce qui se passait, il se tenait étroitement serré contre sa mère. Jasmin, pâle et défait, tremblait de tous ses membres, jetant autour de lui des regards effarés. Hermosa, fière et hautaine, relevait dédaigneusement la tête et semblait défier ceux entre les mains desquels elle se trouvait. Le comte de la Bourdonnais commença par interroger Jasmin. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-il. Mais avant que le valet pût ouvrir la bouche pour répondre, Hermosa se tournant vers lui,
« Je te défends de parler !»
dit-elle d'une voix impérative.
« Oh, belle dame !»
fit Boishardy en souriant ironiquement. « Vous oubliez, je crois, devant qui vous êtes.
C'est parce que je m'en souviens que je parle ainsi.
Vraiment ?
Je suis femme de qualité.
Et nous sommes gentils hommes.
On ne s'en douterait pas.
Vous plairait-il de vous expliquer ?
Des gentilshommes ne font pas d'ordinaire le métier de voleur de grand chemin.
Tonnerre ! S'écria Marcof. Ne discutons pas et dépêchons.
Laissez-moi faire, mes amis, dit Monsieur de Boishardy en s'adressant au comte de la Bourdonnais et au marin.
Madame voudrait sans doute prolonger la conversation, mais je vous réponds qu'elle va parler nettement.
Hermosa sourit.
D'abord, continua le gentilhomme. « Nous ne sommes nullement des voleurs, mais bien des personnages politiques. Veuillez vous rappeler cela. Une insulte nouvelle pourrait vous coûter la vie à tous trois. Réfléchissez. Vous venez de défendre à cet homme de répondre, n'est-ce pas? Eh bien, ce sera vous alors, madame, qui allez nous faire cet honneur. Ne riez pas. Je vous affirme que je ne mens jamais. Veuillez m'écouter. Je commence. Qui êtes-vous?
Comme je ne vous reconnais pas le droit de m'interroger, pas plus que celui de m'avoir arrêté, je ne vous répondrai pas.
La chose devient piquante. Cet enfant est votre fils? Continua Boishardy en indiquant Henrique. Hermosa ne répondit que par un sourire railleur. Markov se mordait les lèvres avec impatience et tourmentait la batterie de sa carabine. Boishardy, parfaitement calme, siffla doucement. Un paysan s'avança, c'était Fleur de Chêne. « Ton fusil est-il chargé ? » demanda le chef.
« Oui. »«
Très bien. Appuie un peu le canon sur la poitrine de cet enfant. » Fleur de Chêne épaula son arme et en dirigea l'extrémité à bout portant sur Henrique. Hermosa poussa un cri et voulut se jeter entre son fils et l'arme meurtrière. Mais Markov lui saisit le bras et la cloua sur place.
« Mon fils, dit-elle, grâce !»«
Allons donc, je savais bien que je vous ferais répondre, » continua Boishardy. « Maintenant, Fleur de Chêne, attention, mon gars, je vais interroger madame. À la moindre hésitation de sa part à me répondre, tu feras feu, sans que je t'en donne l'ordre. »«
Ça sera fait, » répondit le paysan.
Hermosa était d'une pâleur extrême. En proie à la rage de se voir contrainte à obéir, effrayée du péril qui menaçait Henrique, elle tordait ses belles mains sous les cordes qui les retenaient captives.
« Votre nom ?» demanda Boishardy.
« Je suis la marquise de Locronan. »«
La marquise de Locronan ? »
s'écria Markov en bondissant. « Crois-tu qu'elle mente ? » fit Boishardy.
« Non, non, » répondit le marin. Elle doit dire vrai, et c'est la Providence qui l'a conduite ici. »
Puis, se retournant vers Hermosa, « Vous êtes la sœur du comte de Fougueray et du chevalier de Tessy, n'est-ce pas » demanda-t-il.
« Répondez, » dit Boishardy.
« Oui. »«
Oh, mes yeux s'ouvrent enfin !» murmura Markov. « Yvonne ! Yvonne !»
glissa Keinec à son oreille. « Nous allons tout savoir. Patience !» répondit le marin. Boishardy continua l'interrogatoire.
« D'où venez-vous ? »
« De chez mon frère. »«
Où était votre frère ? »
« À l'abbaye de Plogastel. »
« Ici, près ? » ?»«
Oui. »
« Où alliez-vous ? »
« À Audierne. »
« Pourquoi faire ? »
« Pour m'y embarquer. »
« Vous vouliez quitter la France ? »
« Je voulais seulement quitter la Bretagne. »
« Quel est l'homme qui vous accompagne ?»«
Mon valet. »
« Il se nomme ?»«
Jasmin. »
« Et celui qui a fui ?»«
C'est mon frère. »
« Le comte de Fougueray ?»«
Oui. »«
Connaissez-vous ce comte ?» demanda Boishardy à Markov.
« Oui, » répondit le marin. « C'est un agent révolutionnaire. »«
Vous en êtes certain ?»«
J'en ai les preuves. » »«
Alors il faut les faire fusiller, n'est-ce pas ?»«
C'est mon avis. » dit le comte de la Bourdonnaie. « Quoique tuer une femme me répugne, même lorsqu'il s'agit du bien de notre cause. »
Boishardy fit un geste d'indifférence.
« Attendez !» s'écria Markov. « Il faut que je l'interroge. »«
Interrogez, mon cher ami. »«
Fleur de Chêne, » dit Markov, « fais toujours attention. » Puis, revenant à Hermosa,
« Avec qui étiez-vous à l'abbaye ?»
« Avec mon frère, je l'ai dit. »«
Avec le comte seulement ?»«
Mais... »«
Vous hésitez ?»«
Non, » s'écria Hermosa.
« Répondez donc. »«
Il y avait un autre homme avec nous. »«
Le nom de celui-là ?»«
Le chevalier de Tessy. »«
Votre second frère ?»«
Oui. »«
Vous mentez. »«
Monsieur,
cet homme n'est pas mon frère. »«
Monsieur. »«
Fleur de Chêne ?» s'écria Markov.
« Grâce !»
fit Hermosa en se laissant tomber à genoux. « Faut-il faire feu ?» demanda froidement le paysan.
« Attends encore !» répondit Markov.
Hermosa réfléchit rapidement. Elle se sentait prise dans des mains de fer. Fallait-il avouer tout ? Fallait-il nier obstinément ?
Un aveu la perdait à tout jamais, car c'était raconter sa vie infâme. D'un autre côté, ceux qui lui parlaient et qui l'interrogeaient ne pouvaient pas avoir de preuves contre ses assertions au sujet de sa famille. Elle se résolut à soutenir le mensonge. « Répondez, » reprit Marcof. « Vous pouvez tuer mon enfant, monsieur, vous pouvez me faire tuer ensuite, » fit Hermosa avec l'apparence d'une victime résignée. « Mais vous ne sauriez me contraindre à mentir. » « Ainsi, le chevalier de Tessy est votre frère. »« Oui. »« Soit. Je ne puis pas malheureusement vous prouver le contraire, mais songez bien maintenant à me répondre franchement, car je jure Dieu que votre fils mourrait sans pitié. » »«
Interrogez donc. » »«
Où avez-vous laissé le chevalier ?»«
À l'abbaye. » »«
Pourquoi ?»«
Il était malade. » »«
Prenez garde. » »«
Je dis la vérité. »
« Attention, fleur de chêne, attention, mon gars, et tire sur l'enfant à mon premier geste. » Hermosa tressaillit involontairement. Elle devinait où allait en venir son interrogateur.
« Le chevalier était empoisonné, » accentua fortement Marcof.
« Oui, » répondit Hermosa sans hésiter, car elle comprenait que le moindre retard dans ses paroles coûterait la vie à Henrique. Au milieu de ses vices, dans sa vie de criminelle débauche, cette femme avait conservé au fond de son cœur un amour effréné pour son enfant. Mais cet amour était celui de la louve pour ses louveteaux.
Qui a empoisonné le chevalier ?
Le comte de Fougeray.
Son frère ? S'écria Marcof.
Vous entendez, messieurs ?
Qui a versé le poison ?
Demanda Boishardy.
Moi.
« Qu'elle meure donc !» fit le comte de la Bourdonnais. « Cette misérable me fait horreur !»«
Non, » dit vivement Marcof, « je lui promets la vie si elle dit la vérité sur ce que j'ai encore à lui demander. »«
Faites !» répondit Boishardy.
« Vous devez savoir que le chevalier de Tessy avait enlevé une jeune fille, » continua le marin.
« Je le sais.
Elle se nomme Yvonne. »«
Oui. » »«
L'avez-vous vue ?»
Oui.
Quand cela ?
Il y a quelques heures à peine.
Keinec et Jahoua poussèrent un rugissement de joie et de colère. Marcof les arrêta de la main. Puis, revenant à Hermosa,
« Où était cette jeune fille ?»«
À l'abbaye. »
« Où est-elle ? »
« Écoutez-moi, » fit vivement la misérable, craignant qu'on ne prît pour hésitation de sa part l'ignorance où elle était effectivement de ce qu'était devenue Yvonne. Elle raconta brièvement ce qu'elle savait. Elle dit comment Yvonne avait été atteinte par les crises nerveuses, comment le comte l'avait saignée, comment lui et le chevalier l'avaient enfermée dans la cellule de l'abbesse, et comment enfin elle, Hermosa, avait constaté, le soir, la disparition extraordinaire de la jeune fille. Il y avait un tel cachet de vérité à ses paroles, il était si naturel de supposer qu'Yvonne eût profité de la plus légère circonstance favorable pour fuir, que Marcof et ceux qui écoutaient Hermosa ne doutèrent pas qu'elle ne parlât sincèrement.
« La jeune fille est peut-être retournée à son village, » dit le comte de la Bourdonnais.
« C'est possible ?» répondit Boishardy.
« Non, » dit Marcof, « elle devait être trop faible, et il y a loin d'ici à Fouesnant. Et puis, vos gars qui gardent le pays l'auraient déjà arrêtée. »«
Mais qu'est-elle devenue alors ?» s'écria Jahoua.
« Avez-vous visité les souterrains ?» demanda Hermosa, qui avait compris facilement que les trois hommes avaient été à l'abbaye. Il lui était fort indifférent que l'on retrouvât ou non Yvonne, et elle espérait attendrir ses juges en ayant l'air de leur donner tous les éclaircissements qui étaient en son pouvoir.
« Il y a donc des souterrains dans l'abbaye ?» demanda Marcof.
« Oui, » dit Fleur de Chêne, « et de fameux. »«
Tu les connais ?»«
Oui. »«
Tu vas venir avec nous et nous conduire. »«
Partons !» s'écrièrent Jahoua et Keinec.
« Guide-les, Fleur de Chêne, je vous rejoins, mes gars, » dit Marcof.
Fleur de Chêne et les deux jeunes gens disparurent promptement. Hermosa poussa un soupir de soulagement. Henrik n'était plus menacé par le fusil du paysan breton. « Qu'allons-nous faire de cette femme ?» demanda M. de la Bourdonnais en désignant Hermosa. Marcof l'entraîna, ainsi que Boishardy, à quelques pas, et, baissant la voix,
« Il ne faut pas la tuer, » dit-il.
« Elle peut nous être utile ?»«
Peut-être. »
« Nous devons la garder à vie, alors ?»«
Oui. »«
Je m'en charge, » fit Boishardy. « Où la conduirez-vous ? »
« Au château de la Guyot-Marais, où est le quartier général de la Rouerie. »«
Très bien. Je l'emmènerai cette nuit même. » Les trois chefs allaient se séparer lorsqu'un paysan parut dans la petite clairière où ils se trouvaient.
« Qu'y a-t-il, Liguroux ? »
demanda vivement le comte.
« Un message pour vous, monsieur. »«
De quelle part ? » ?»«
De la part d'un monsieur que je ne connais pas. »
répondit le paysan en présentant une lettre à la Bourdonnais. « Où as-tu vu ce monsieur ?»«
À 2 lieues d'ici, sur la route d'Audierne. Il traversait les genêts avec une femme habillée en religieuse et un autre homme âgé. Nous les avons arrêtés, mais il nous a donné le mot de passe et il a ajouté les paroles convenues et qui désignent un chef. Alors, au moment de s'éloigner, il m'a rappelé. Je suis revenu. Il a écrit une lettre sur un papier avec un crayon, et il me l'a remise, en m'ordonnant de vous la porter sans retard. J'ai obéi.
Bien, mon gars. Le paysan se recula, tandis que le comte brisait le cachet, ou plutôt déchirait une enveloppe collée avec de la mie de pain.
Kerouette, dit-il en s'adressant à un homme qui tenait à la main une torche de résine enflammée. Éclaire-moi.
Kerouette s'approcha vivement pour obéir à son chef. Quelques lignes étaient tracées sur le verso de l'enveloppe. Ces quelques lignes contenaient les mots suivants. « Prière au comte de la Bourdonnais de faire passer cette lettre par une main fidèle au capitaine Marcof, commandant le lougre, le Jean-Louis, en relâche à Penmarc. »
Marcof, dit le comte en tendant la lettre au marin, « ceci est pour vous. »
Pour moi ?
Voyez ce que l'on m'écrit.
Marcof prit la lettre et l'enveloppe. À peine eut-il jeté les yeux sur les lignes tracées au crayon qu'il tressaillit et qu'une joie immense illumina sa mâle figure. Il venait de reconnaître l'écriture du marquis de Locronan. Prenant la torche des mains de Kerouette et se retirant à l'écart, il lut avidement. Puis il revint vers le comte et son compagnon. « Messieurs, dit-il, il faut que je vous parle. Éloignez tout le monde. »
La Bourdonnais donna l'ordre d'emmener les prisonniers et de veiller sur eux.
« Qu'y a-t-il ? » demanda Boishardy lorsqu'ils furent seuls tous trois.
« Je suis autorisé à vous révéler un secret, » répondit Marcof. « Écoutez-moi attentivement. Le marquis de Locronan n'est pas mort.
Philippe n'est pas mort ? S'écria Boishardy.
Impossible, fit le comte. J'ai assisté à ses funérailles.
Je vous le répète pourtant, le marquis de Locronan n'est pas mort.
Impossible, impossible.
Cette lettre est de lui. Voyez sa signature. Elle est datée de ce soir même.
C'est une bénédiction du ciel. Murmura M. de la Bourdonnais en regardant la lettre que lui présentait Marcof.
« C'est un bras et un cœur de plus dans nos rangs !» ajouta Boishardy.
« Expliquez-nous ce mystère, Marcof !»«
Je ne puis vous révéler les causes qui ont déterminé le marquis à se faire passer pour mort. Il faut même que vous gardiez le plus profond secret à cet égard. Toujours est-il qu'il est vivant. Il quitte la Bretagne cette nuit même, et voici ce qu'il m'écrit avec ordre de vous communiquer ses intentions. »
Nous écoutons.
Marcof commença la lecture de la lettre. « Mon cher et aimé Marcof, écrivait le marquis, si tu m'as cru mort, je viens porter d'un seul coup et sans préparation aucune la joie dans ton âme, car je n'ignore pas les sentiments qui t'attachent à moi. Si le bruit de ma mort n'est pas encore arrivé jusqu'à toi, j'en bénirai le ciel qui t'aura ainsi évité une douleur profonde. Dans tous les cas,
voici ce qu'il est important que tu saches. Le soir même du jour où mes funérailles ont été célébrées dans le château de mes pères, je prenais la fuite avec Jocelyn. Je me suis retirée dans l'abbaye de Plogastel, près de Mademoiselle de Château-Giron, qui avait continué à habiter le couvent. Je comptais attendre là ton retour et te donner les moyens de venir m'y joindre. Malheureusement, Dieu en a ordonné autrement. Des misérables m'ont poursuivi et ont découvert ma retraite. Je fuis donc. Je passe en Angleterre. Communique cette lettre à nos principaux amis, afin qu'ils sachent ce que je vais faire et qu'ils connaissent nos moyens de correspondre. Je vais à Londres d'abord. Là, je verrai Pitt et je m'efforcerai d'obtenir des secours en armes et en argent. Je solliciterai l'appui d'une flotte anglaise s'il ne me répugnait d'associer des étrangers à notre cause. S'il m'accorde les secours que je demande, le roi pourra l'en récompenser plus tard et rendre à l'Angleterre ce qu'elle nous aura prêté. D'Angleterre, j'irai en Allemagne. Je verrai Son Altesse Royale, Monseigneur le Comte de Provence. Je prendrai ses ordres, que je vous ferai passer. Tu pourras te mettre facilement en communication avec le pêcheur qui me conduit en Angleterre. Il se nomme Salaun et habite Audierne. À son retour, il te remettra une nouvelle lettre de moi.
C'est là tout ce qui concerne notre cause, messieurs, dit Marcof en repliant la lettre.
Je répondrai à Philippe, dit Boishardy, et je vous remettrai la lettre, Marcof.
Serez-vous encore à Penmark dans 4 jours ? Demanda le comte de la Bourdonnais.
Oui, je ne mettrai à la voile qu'après avoir reçu la seconde lettre du marquis.
Bien, nous irons vous trouver à bord de votre lougre dans 4 nuits.
Je vous attendrai, messieurs.
Marcof prit les mains de ses 2 interlocuteurs.
« Pas de honte entre nous, dit-il. Avez-vous besoin d'argent ?»«
Non, répondit le comte.
Et vous, monsieur de Boishardy ?
J'avoue qu'il m'en faudrait pour augmenter l'entraînement général. »«
Combien ?
Oh, beaucoup.
Dites toujours.
25 000 écus environ. »«
Vous les aurez. »«
Quand cela ?
Quand vous viendrez à mon bord. »
Ah, ça, mon cher ami, le pactole coule donc sur le pont de votre lougre,
dit Boishardy en riant.
Pas sur le pont, mais dans la cale.
Quoi, sérieusement, cet argent est à vous? Demanda la Bourdonnais.
J'ai 300 000 livres à votre disposition, à bord du Jean-Louis, et 500 000 autres cachés dans un endroit connu de moi seul. Cet or est consacré aux besoins de notre cause.
« Brave cœur !» s'écria Boishardy. « Il donne plus que nous. »
J'ai toujours pensé que Marcof était un gentilhomme qui reniait son origine et se cachait sous les habits d'un matelot,
ajouta M. de la Bourdonnais en s'inclinant avec une gracieuse politesse.
« Ne vous occupez pas de cela, messieurs, »
répondit Marcof en souriant avec fierté. « Sachez seulement que je puis vous recevoir et vous serrer la main, sans que vous descendiez trop du rang où vous a placé chacun le nom de vos aïeux. »«
Nous n'en doutons pas, » fit Boishardy en tendant sa main ouverte au marin.
« Dans 4 nuits, n'est-ce pas ?»«
C'est convenu. »«
Et les prisonniers ?»«
J'en réponds, » dit encore Boishardy.
« Adieu donc !»
Marcof quitta rapidement la clairière et prit la route de l'abbaye de Plogastel.
« Oh !» se disait-il en se glissant dans les genêts. « Pauvre Philippe, je sais maintenant tes secrets. Je connais la cause de ta fuite. Je devine celle qui te fait abandonner la Bretagne au moment du danger. Mais je suis là, frère, et je veille. Déjà 2 des misérables qui ont torturé ta vie sont entre mes mains, et le 3e ne m'échappera pas. « Mon Dieu, faites que je puisse rendre à celui que j'aime de toute la force de mon cœur cette tranquillité qu'il a perdue, que je le voie heureux et que je meure après s'il le faut. Mais comment se fait-il que ce chevalier de Tessy soit le même homme que ce Raphaël que j'ai rencontré jadis dans les Abruzzes ? Il y a là-dessous quelque horrible mystère que je saurai bien découvrir plus tard.
Oh, que je trouve ce comte de Fougueray, que je le tienne en ma puissance, comme j'y tiens sa sœur maudite, et je parviendrai à leur faire révéler la vérité. Va, Philippe, tu seras heureux peut-être, mais je te ferai libre, je le jure. »
Marcof était arrivé devant l'abbaye. Il monta rapidement à la chambre où il avait laissé Raphaël. Le cadavre du malheureux était dans une décomposition complète. La force du poison était telle qu'en quelques heures, il avait accompli l'œuvre que la mort met plusieurs jours à faire. L'air de la cellule était vicié par une odeur infecte et insoutenable. Marcof sortit vivement. Il appela Keinec et Jahoua. Aucun d'eux ne lui répondit. L'abbaye semblait déserte et abandonnée. «
Ils sont dans les souterrains, » murmura Marcof. « Ils n'ont pas besoin de moi en ce moment. Je vais visiter encore la chambre qu'a habitée Yvonne et la sonder attentivement. » La jeune fille n'a pu fuir que par une ouverture secrète qu'elle aura découverte. Ce disant, le marin entra dans la cellule de l'abbesse. Il visita avec une profonde attention le plancher et les murailles. Puis, ne découvrant rien et supposant que les meubles pouvaient cacher ce qu'il cherchait, il se mit en devoir de les enlever de la chambre. Il s'adressa d'abord au lit. Le lit ne recouvrait aucun indice qui pût mettre Marcof sur la voie qu'Yvonne avait pu prendre pour se sauver. Alors, il voulut repousser le bahut d'ébène. Le meuble résista. On se rappelle qu'il était scellé à la muraille par l'un de ses angles. Marcof employa inutilement ses forces. Saisissant sa hache, il attaqua les deux battants de la porte du bahut. Le bois craqua sous l'acier. Marcof arracha la porte qui céda et sonda l'intérieur avec la manche de son arme. Le fond, élevé sur quatre pieds, ne pouvait évidemment pas mériter un long examen. Il frappa sur le côté du meuble, qui devait être appuyé au mur. Le panneau rendit ce son sec du bois derrière lequel il y a vide. Marcof poussa un cri de joie et attaqua plus vigoureusement encore l'ébène qui bientôt joncha le plancher de ses débris mutilés.
Chapitre 21. Diego et Marcof. Une heure avant que Marcof ne franchît le seuil de l'abbaye, un homme, chevauchant sur un magnifique étalon anglais, galopait à fond de train sur la plage dans la direction d'Audierne. Cet homme étant le comte de Fougueray. Arrivé dans la petite ville et se jugeant à l'abri, il s'était arrêté pour réfléchir à sa situation et prendre un parti quelconque.
« J'avais tort d'accuser Hermosa, » pensait-il, tandis que son cheval reprenait haleine et que la vapeur s'échappant de ses flancs enveloppait le cavalier dans un nuage de brouillard. Évidemment, elle est tombée entre les mains des paysans. Pourquoi ne l'ai-je pas emmenée de suite à Audierne? Les drôles ont fait main basse sur l'or qui se trouvait dans le coffre. Je suis ruinée, complètement ruinée. Mauvaise nuit. C'est ce Raphaël maudit qui est cause de tout cela, avec sa manie d'enlever les jeunes filles. Que Satan torture ce bélitre amoureux. Et j'espère, par Dieu, qu'il n'y manque pas à cette heure. Que dois-je faire? M'embarquer? À peine me reste-t-il 10 louis. Ah, si j'avais eu le temps d'emporter cette argenterie massive que nous avons découverte dans l'abbaye, j'aurais dû la fondre en lingots. Rien n'était plus facile. Je réponds qu'il y en a bien pour 20 000 livres. 20 000 livres ! Continua-t-il en soupirant. Joli denier pour un homme qui n'a pas le sou. Ah, si je pouvais. Et pourquoi pas ? Fit-il tout à coup en se redressant sur sa selle. Les souterrains du château m'offrent un asile, et en quelques heures, j'aurai terminé mon opération métallurgique. Excellente idée. Oui, mais ces damnés chouans, garde les alentours. Ah, bah, qui ne risque rien à rien. Risquons.
Et, rassemblant ses rênes, Diego se remit en marche, mais cette fois au pas de son cheval. Au moment de s'engager de nouveau sur la route de l'abbaye, il s'arrêta encore.
« Je suis bien bon, murmura-t-il, de risquer à me faire prendre pour une cible par ces fusils bas-bretons. N'ai-je pas, pour pénétrer dans l'abbaye, les entrées des souterrains qui donnent dans la campagne ? Réfléchissons un peu. La galerie que nous avons explorée en premier donne dans la forêt de Plogastel. N'y songeons pas. La forêt doit servir de quartier général à ces royalistes endiablés. La seconde est sur la route de Penmarc. Si Yvonne a fui, c'est par là qu'elle ramènera du secours. Mais la troisième... Et Diego réfléchit profondément. Puis il reprit. La troisième, si j'ai bonne mémoire, aboutit près de Douarnenez, entre ce village et Pont-Croix, à quelque distance de la mer, environ à une lieue d'ici. 20 minutes de galop m'y conduiront. Et comme je suivrai la plage, je n'aurai pas la crainte de rencontrer les chouans qui n'occupent que le haut pays. En route. Diego revint sur ses pas, traversa de nouveau Audierne et s'élança dans la direction indiquée. Diego montait un excellent coursier. En un quart d'heure, il eut atteint Pont-Croix. Rien n'était venu inquiéter sa marche. Là, il s'orienta. Lorsque, après avoir pris possession de l'abbaye quelques jours auparavant, il avait soigneusement visité les souterrains, il avait attentivement examiné les entrées qui y donnaient accès. Celles situées sur le bord de la mer, à peu de distance des falaises, étaient cachées au regard des passants par un travail admirable, œuvre d'une main habile. Elles donnaient dans une petite grotte, étroite et fort basse, dans laquelle il fallait pénétrer en se glissant sur les genoux. Une porte, enduite d'une épaisse couche de granit, était pratiquée au fond de cette grotte, et, se mouvant par un ressort artistement dissimulé, s'ouvrait sur la galerie. Diego avait découvert le ressort, faisant céder la porte intérieurement. Donc, lorsqu'il eut dépassé Pont-Croix, il mit pied à terre, et, conduisant son cheval par la bride, il se dirigea vers la grotte, qu'il atteignit bientôt. Alors, il attacha son cheval à un arbre voisin et se glissa dans l'intérieur. Diego était un homme de précaution. Il avait sur lui une bougie et un briquet. Il fit du feu à l'aide de l'un, et, le feu fait, il alluma l'autre. Puis il pressa le ressort. La porte s'ouvrit, et il pénétra dans la galerie. Ce moment coïncidait précisément avec celui où Hermosa, Jasmin et Henrique étaient amenés devant le comte de la Bourdonnais, Monsieur de Boishardy et Marcof. Il y avait 6 heures environ que la pauvre Yvonne gisait à terre, en proie à la fièvre et au délire. Diego, certain d'être seul, avança hardiment. Par mesure de précaution, il tenait un pistolet à la main. Diego avait été doué par la nature prodigue d'une imagination des plus vives. Son esprit, continuellement éveillé, travaillait sans relâche. En traversant les souterrains, le projet d'Hermosa, relatif à la seconde marquise de Locronan, lui revint en tête. Il sourit. « J'ai eu tort de me plaindre, » murmura-t-il. « Les chouans m'ont rendu grand service. Ils m'ont pris 75 000 livres, mais ils me mettent en possession de plus de 2 millions. Ils m'ont ruiné pour le moment, mais ils me font riche pour l'avenir et libre pour le présent. Ma foi, j'avais assez d'Hermosa. Elle est entre leurs mains, qu'elle y reste. C'est le seul souhait que je forme. J'irai seule à Rennes. Je verrai Julie de Château-Giron, et je saurai bien la contraindre à m'abandonner sa fortune, lors même qu'elle aurait appris la mort du marquis. Elle ne voudra pas que l'on déshonore sa mémoire. L'argenterie de la mère abbesse me mettra à même de faire le voyage, et d'attendre, s'il le faut, pour mieux réussir. Ah non, Saint-Janvier, le patron des Lazzaroni, veille toujours sur moi. Grâce lui soit rendue. Ah ! Fit-il tout à coup en poussant un cri de surprise et en trébuchant. Il se retint à la muraille, mais la bougie lui avait échappé et s'était éteinte en tombant. Diego était brave. Cependant, sa position était assez critique pour qu'il fût excusable de ressentir un mouvement de terreur. Il était au milieu de souterrains inhabités depuis longtemps. Quelques bêtes fauves avaient pu en avoir fait son repère. il avait heurté du pied un obstacle que l'on devait supposer être un corps étendu en travers de la galerie. Aussi, s'appuyant à la muraille, son pistolet à la main, il s'efforça de sonder les ténèbres. Il s'attendait à voir des yeux flamboyants luire dans l'obscurité. Il n'en fut rien. Rassuré par le silence qui régnait, Diego se baissa et chercha sa bougie. Bientôt il la retrouva et l'alluma promptement. Alors il regarda à ses pieds. Un corps inanimé gisait sur le sol humide, et c'était l'obstacle causé par ce corps qui avait fait trébucher l'Italien.
« Une femme ?»
s'écria Diego en s'approchant davantage et en se baissant pour mieux éclairer l'être privé de sentiments qui demeurait immobile à ses pieds.
« Une femme ?»
répéta-t-il en posant la bougie sur la terre. Ce corps, le lecteur l'a deviné, était celui de la malheureuse Yvonne. Lorsque les forces avaient manqué à la jeune fille, elle était tombée en avant, la face contre terre. Depuis, elle n'avait pas bougé. Diego l'enleva dans ses bras.
« Yvonne ? » dit-il en demeurant stupéfait. « Yvonne ? Morte peut-être ? »
« Non, » continua-t-il, « son cœur bat encore. Comment a-t-elle pu se traîner jusqu'ici ?
Oh, je devine, elle aura découvert dans la cellule quelle couverture secrète que j'ignorais.
Ma foi, je lui ai rendu un grand service en la débarrassant de Raphaël. » Et elle m'en devra quelque reconnaissance si elle en réchappe. Quelle jolie tête! Père Bacco! Hermosa n'avait pas eu tort d'en être jalouse. Que diable vais-je en faire? Diego se mit à réfléchir. Le temps presse, ajouta-t-il. Il faut prendre un parti. Elle est sans connaissance, incapable de se défendre.
Si je l'enlevais à mon tour?
Oui, mais elle m'embarrassera. D'un autre côté, j'ai la solitude en horreur. Elle remplacera Hermosa. Sur cette détermination, Diego prit dans ses bras le corps de la jeune fille, retourna vivement sur ses pas et atteignit bientôt l'entrée du souterrain. « Je la retrouverai ici, » murmura-t-il en la déposant doucement à terre, près de la porte donnant dans la grotte. « Maintenant, faisons vite. » Et, pressant sa course, il revint vers l'abbaye. Il pénétra dans le corps de bâtiment et gravit rapidement le premier étage de l'escalier. En poussant la porte de la chambre d'Hermosa, il recula.
« Raphaël, ici ? »
s'écria-t-il à la vue du cadavre couché sur le divan.
« N'est-il pas mort encore ?»
Il s'approcha vivement.
« Si fait, il est mort, et bien mort »
continua-t-il.
« Mais alors quelqu'un est venu ici ? On l'a transporté dans cette pièce. Oh, pourvu que le misérable n'ait pas eu le temps de parler !»
Diego demeura immobile. Un bruit de pas retentit au dehors. Diego bondit vers le corridor.
« Je suis perdu ! On pénètre dans l'étage supérieur !»
Il jeta autour de lui un coup d'œil rapide. Une cellule était ouverte, il s'y précipita. Là, il retint sa respiration, pour être à même de mieux entendre. Keinec, Jahoua et Fleur de Chêne venaient d'entrer dans l'abbaye.
« Montons-nous ? » demanda Fleur de Chêne.
« Oui, » répondit Jahoua. Diego sentit une sueur froide inonder son visage. Le misérable craignait la mort, et il ne s'illusionnait pas sur sa position. Être pris était pour lui être tué. Il ne doutait pas que les hommes qui l'entendaient ne fussent des chouans. Et lui, agent révolutionnaire, devait périr sans miséricorde. Fleur de Chêne s'était élancée dans l'escalier. Keinec le retint.
« Inutile, » dit-il, « nous avons fouillé les étages supérieurs. Allons de suite au souterrain. »
« Soit. » Les trois hommes s'éloignèrent. Diego sentit une joie suprême succéder à l'angoisse qui le torturait. Il n'était pas découvert, donc il y avait encore de l'espérance. Il entendit les pas résonner sur les dalles du corridor, puis s'éloigner rapidement. Alors Diego sortit de la cellule. Il ne songeait plus à l'argenterie de l'abbesse. Retenant sa respiration, se coulant le long des murailles, il descendit les marches avec des précautions infinies.
Une fois au rez-de-chaussée, il écouta attentivement. « Si je fuyais par la cour, » pensait-il. Il fit quelques pas et s'arrêta. « Non, elle est sans doute gardée. Puis, je serais arrêté dans les genêts. » Il revint vers l'escalier conduisant au souterrain. « S'ils sont dans les deux autres galeries, je suis sauvé, » murmura-t-il. Keinec, Jahoua et Fleur de Chêne étaient demeurés à l'entrée des trois galeries, se consultant sur celle qu'ils devaient explorer la première. Diego pouvait entendre leurs paroles de l'endroit où il était. Il sentait que des quelques minutes qui allaient suivre dépendaient son existence. Il essaya de balbutier une prière, mais ses lèvres ne trouvaient que des blasphèmes. Pâle et tremblant, il écoutait comme le criminel qui attend l'arrêt de ses juges. Enfin, les trois hommes prirent une décision. Ils continuèrent leurs recherches en poussant en avant. Seulement, Diego ne put deviner tout d'abord, au bruit de leurs pas, la direction qu'ils avaient prise. Il resta au sommet de l'escalier souterrain, n'osant avancer encore, lorsqu'un nouveau bruit retentit derrière lui. Quelqu'un pénétrait dans le couvent. Diego se précipita en avant et descendit quelques marches sous l'empire d'une terreur folle. C'étaient les pas de Marcof que l'Italien avait entendus. Le marin, arrivant en dernier, avait voulu retourner à la cellule qu'avait probablement occupée Yvonne. Une fois de plus, Diego voyait s'éloigner le péril. Bientôt, la marche de Marcof résonna au-dessus de la tête du misérable. Alors il continua à descendre. Les trois galeries s'offrirent à lui. Toutes les trois étaient sombres et aucun rayon de lumière ne lui indiquait celle qu'avaient suivi ceux qui venaient d'y pénétrer. C'était la galerie de gauche qui conduisait à la grotte. Diego examina d'abord attentivement celle de droite. Il avança doucement, il ne vit rien. Alors il prit celle du milieu. Au bout de quelques pas, il aperçut au loin la lueur d'une torche. « Sauvé !» murmura-t-il avec joie. La galerie de gauche était libre. Diego n'avait pas de lumière. Dans la précipitation de sa fuite, il avait laissé la bougie allumée dans les souterrains, près du cadavre de Raphaël. Il se précipita donc dans l'obscurité, se guidant sur la muraille qu'il suivait de la main. Cependant, il avançait rapidement. Déjà, il avait franchi plus d'un tiers de la distance qui le séparait encore de la grotte, lorsqu'une porte s'ouvrit brusquement derrière lui et qu'un homme s'élança à son tour dans la galerie. Cet homme tenait une torche à la main. C'était Marcof. Le marin, après avoir brisé le bahut d'ébène, avait facilement découvert l'ouverture secrète donnant dans la cellule de l'abbesse, et espérant être sur les traces d'Yvonne, il était descendu. En pénétrant dans la galerie, il vit un homme bondir devant lui et s'éloigner. Marcof appela, croyant avoir affaire à l'un de ses compagnons qu'il savait être dans les souterrains. Ne recevant pas de réponse, il poursuivit celui qui fuyait. « Arrête ! » cria-t-il en tirant un pistolet de sa ceinture. « Arrête, ou je fais feu !» Diego continua sa course en augmentant de vitesse. Il était protégé par l'obscurité. Marcof fut donc obligé d'ajuster au hasard et de tirer au jugé. La balle effleura la tête de l'Italien et se perdit dans la voûte. Mais Marcof, sa torche d'une main, sa hache de l'autre, bondissait comme un lion en fureur à la poursuite de sa proie. Diego s'aperçut promptement qu'il ne pouvait lutter d'agilité. Il se retourna. Ne voyant qu'un seul homme, il tint ferme. Le marin arriva sur lui. La torche qu'il portait le mettait en pleine lumière. « Marcof ! » s'écria Diego, dont les dents grincèrent de rage. « Marcof, je vais te payer la dette que je te dois !» Et levant son pistolet, il fit feu presque à bout portant. La balle atteignit le marin en pleine poitrine. Marcof poussa un cri rauque, tourna sur lui-même et tomba. En ce moment, Keinec, Jahoua et Fleur de Chêne, attirés par le bruit de la première détonation, accouraient en toute hâte. Diego était à l'extrémité du souterrain. Il saisit Yvonne, toujours étendue sans connaissance, à l'endroit où il l'avait laissée.
et faisant jouer le ressort, il s'élança dans la grotte en attirant vivement la porte à lui.
« Sauvé !
Vengé ! J'emporte la jolie bretonne » fit-il en souriant et en pressant Yvonne sur sa poitrine.
« C'est trop de bonheur ! À moi maintenant le plaisir, la liberté et les millions de la marquise !»
Puis il se glissa avec son fardeau par l'étroite ouverture, courut à son cheval, le détacha, plaça Yvonne sur l'encolure, sauta en selle et disparut au galop dans la direction de Brest, au moment où Keinec, après avoir arraché les gonds de la porte, bondissait sur la plage. Jahoua le suivait. Tous deux avaient vu tomber Marcof et enlever celle qu'ils aimaient. L'expression de leur physionomie était effrayante. On y lisait, comme on eût lu dans un livre ouvert, les sentiments terribles de la colère, de la haine, de la rage, de la soif du sang. Leur impuissance présente ajoutait encore à l'horreur de leur situation morale, car ils ne pouvaient espérer, à pied, atteindre le ravisseur qui fuyait sur un bon cheval. Ils se regardèrent muets de douleur. Puis, par un mouvement admirable qui décelait tout ce que ces deux jeunes et vaillants cœurs renfermaient de richesse, ils se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre. Ces deux hommes, ennemis la veille, s'étreignirent en frères.
« Jahoua, s'écria Keinec, si tu sauves Yvonne, je te jure par le Dieu vivant que je ne m'opposerai pas à votre union. » « Je fais le même serment, Keinec, répondit le fermier.
Alors elle sera à celui qui l'aura sauvée.
À celui qui l'aura sauvée, répéta Jahoua.
Pendant ce temps, Fleur de Chêne essayait d'arrêter le sang qui coulait à flots de la poitrine de Marcof, et Diego, longeant les falaises, disparaissait à l'horizon. La coiffe blanche d'Yvonne, dont la tête ballottée par le galop du cheval vacillait sur le bras du ravisseur, se distingua quelque temps encore, puis tout disparut dans un nuage de poussière. Les deux jeunes gens devaient-ils tenir leur serment ? Yvonne devait-elle demeurer la proie du bandit ? Marcof devait-il mourir ? Que ceux de mes lecteurs, que la longueur de ce volume n'aura pas lassé, veulent bien s'adresser au marquis de Locronan, et ils auront réponse aux précédentes questions.